Bon, je vois que le silence se fait, donc on commence. Voilà, donc c'est le débat qui s'intitule « Face à la faillite du capitalisme, quelle politique pour les révolutionnaires ?» Débat donc que nous allons mener avec les camarades de lutte ouvrière. Alors, on va intervenir deux fois 7 minutes pour, bon, disons, un petit quart d'heure à deux voix pour le NPA, pareil pour les camarades, et ensuite, donc, le débat pourra se dérouler, voilà. Et oui, avec une petite conclusion à la fin, voilà, si les camarades le souhaitent, hein. Voilà. Bon, ben tout d'abord, nous nous réjouissons que les camarades de lutte ouvrière aient répondu favorablement à notre invitation et que ce débat puisse avoir lieu. Hein. Parce que bon, le mouvement révolutionnaire est aujourd'hui confronté à des enjeux majeurs, hein, une situation économique, politique, sociale et environnementale qui est inédite, et on ne pourra pas faire l'économie d'une discussion large et ouverte sur la période que nous vivons et sur la politique à mettre en œuvre comme réponse de notre camp social, le monde du travail, à la faillite du capitalisme. Alors, comme disait un camarade dans le débat à votre fête, donc la semaine dernière, pour certains d'entre nous, nous nous connaissons depuis plus de 40 ans et nous avons eu dans le passé des discussions, des divergences, aussi des points d'accord. Hein, mais aujourd'hui, ce que nous voulons discuter, ce n'est pas le passé, mais l'avenir, c'est-à-dire les bouleversements du monde auxquels nous sommes confrontés et les tâches urgentes qui en découlent pour les révolutionnaires. Alors, c'est vrai que bien souvent, dans les débats de l'extrême-gauche, on fait le procès de l'autre, on discute des divergences qui justifient que chacun mène sa vie et sa politique séparément. Pour notre part, ce que nous voulons discuter et définir aussi, ce sont les convergences qui peuvent permettre de réaliser l'unité, le regroupement des révolutionnaires qui nous paraît aujourd'hui nécessaire et indispensable pour définir ensemble une politique pour faire face à la nouvelle période qui est grosse de possibilités révolutionnaires. Alors, discuter des enjeux auxquels le mouvement révolutionnaire est confronté, pour nous, c'est commencer par prendre la mesure du tournant en cours, c'est-à-dire de la nouvelle période dans laquelle nous sommes entrés, celle d'un capitalisme pourrissant, à bout de souffle, qui nous entraîne dans une crise globale et qui est incapable de répondre aux besoins des travailleurs, des populations, des peuples. De fait, le capitalisme n'offre plus aujourd'hui, à plus ou moins long terme, d'autre avenir possible à l'humanité qu'une régression sans fin sur une planète asphyxiée et qui met même en péril la survie même de l'humanité. Alors dire cela, ce n'est pas être catastrophiste ou jouer les Cassandres, c'est simplement prolonger une évolution qui est déjà entamée. Depuis la Grande Dépression de 2008-2009, jusqu'à la guerre en Ukraine, l'inflation mondialisée, la crise de l'énergie, l'emballement du réchauffement climatique en passant par le Covid, eh bien, il y a une étape irréversible du capitalisme qui est franchie. Et c'est ce qui fait la spécificité historique de la période, c'est qu'il atteint ses limites et c'est cette situation nouvelle aujourd'hui que nous pensons indispensable de discuter. Donc, le capitalisme a atteint ses limites. Les profits ne reposent plus aujourd'hui que sur la surexploitation du travail et de la nature, sur la violence et le pillage. C'est vrai que le monde a changé radicalement. On n'est plus aujourd'hui à l'ère de l'impérialisme que Lénine décrivait au début du XXe siècle. Cette époque du capitalisme en expansion, qui trouvait des débouchés à ses capitaux par une politique de conquête militaire de nouveaux territoires, cette période-là, elle est révolue. Le capitalisme, il a généralisé aujourd'hui le marché et la concurrence à l'échelle de la planète, et il trouve ses limites. Et cette crise globale, ce n'est pas la énième crise cyclique du capitalisme telle qu'on les a connues dans le passé. Elle est l'expression d'un capitalisme sénile qui n'a plus aucune perspective de nouvelle croissance et qui met la révolution à l'ordre du jour. Et c'est d'ailleurs ça hein, que craignent les classes dirigeantes et ce à quoi elles se préparent, hein, les explosions sociales, le soulèvement des pauvres, des travailleurs, de la jeunesse, des femmes hein, qui portent aujourd'hui à travers le monde la contestation globale du système. Les rapports internationaux sont bouleversés. Hein, la concurrence fait rage entre les anciennes puissances occidentales et les nouvelles puissances émergentes, hein, comme la Chine, la Russie et d'autres puissances plus régionales, et qui remettent en question la domination américaine sur le monde. Et ça, on voit bien que les États-Unis répondent avec leurs alliés occidentaux dans l'OTAN, en menant l'offensive, bien sûr, pour maintenir leurs intérêts et leurs zones d'influence. Et ce sont eux, de fait, hein, qui sont les principaux fauteurs de guerre. Et ce sont eux, d'ailleurs, qui portent la responsabilité de la guerre en Ukraine, même si c'est Poutine qui a déclenché les hostilités en envahissant le territoire ukrainien. Eh bien, leur monde, c'est un monde militarisé, un monde de guerre. C'est ce monde-là que le capitalisme a forgé. Et toute leur propagande, hein, celle des classes dominantes, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien, vise à soumettre les travailleurs aux intérêts des capitalistes occidentaux, aux objectifs militaires actuels hein, des États-Unis et de l'OTAN en Europe, avec comme ligne de mire la Chine. Le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, en fait, il ne pourra venir que du refus de l'Union nationale et de la lutte internationale et internationaliste des travailleurs contre la guerre, ukrainiens, russes, travailleuses et travailleurs d'Europe, pour un autre monde solidaire, la société socialiste communiste. De même que seul le monde du travail et la jeunesse pourront faire reculer la montée des régimes autoritaires hein, qu'on voit partout là aujourd'hui s'installer en Europe et la montée de l'extrême droite, il n'y a que hein, les travailleurs et la jeunesse qui pourront les faire reculer en apportant leur propre réponse à la crise, c'est-à-dire la conquête du pouvoir, la prise en main de l'ensemble de la société par les exploités, les premières et premiers de corvée, hein, pour répondre aux besoins de toutes et tous. Alors, je voudrais dire un dernier mot, puisque j'arrive presque à la fin, sur le recul du mouvement ouvrier et sur la dégradation du rapport de force, hein, qui apparaît aujourd'hui pour beaucoup comme un obstacle qui pèse lourd hein, sur les consciences. Parce que pour bien des militants, des travailleurs, des courants aussi d'extrême gauche, eh bien, le recul est tellement profond hein, qu'une politique révolutionnaire ne serait pas possible, hein, pas d'actualité, et qu'il faudrait s'adapter. Alors cela se traduit dans l'extrême gauche, soit par le sectarisme et une propagande un peu abstraite sur le monde futur, ou par l'adaptation et l'opportunisme vis-à-vis de la gauche politique et syndicale traditionnelle, sous couvert d'unité. Mais tout ça, ça paralyse la discussion sur une stratégie révolutionnaire qu'il faudrait que nous formulions tous ensemble. Mais les nouvelles générations de jeunes, hein, de travailleurs, sur lesquels repose l'avenir de la société, eh bien, sont libres de ce passé, ils sont libres du poids du recul, qui est certes réel, mais qu'il faut mettre aussi en balance avec les possibilités révolutionnaires de la période, hein, comme on peut le voir, par exemple, aujourd'hui en Iran. Et notre tâche de révolutionnaire, eh bien, c'est de développer au sein du monde du travail, de la jeunesse, la compréhension du lien qu'il y a entre la guerre, l'exploitation, le militarisme, l'inflation, la guerre économique, la guerre écologique. C'est tout ça qu'il faut mettre en lien dans un même combat pour renverser le capitalisme. Alors cela suppose eh bien, que nous soyons capables ensemble de formuler un programme pour la révolution, je dirais, et une stratégie. Et c'est ce que Laurent va développer maintenant.
Oui, bonjour. Donc pour poursuivre cette discussion, donc face à cette faillite du capitalisme, aux évolutions politiques qui sont liées à l'offensive actuelle hein, des classes dominantes, ben on pense que effectivement que la question de l'unité des révolutionnaires pour construire justement un parti de l'émancipation des travailleurs eux-mêmes autour d'une stratégie révolutionnaire, ben c'est une tâche essentielle aujourd'hui. Cela signifie, par contre, dépasser nos propres limites du courant révolutionnaire qui sont de toute façon imposées par l'histoire même de nos courants. Pendant bien trop longtemps, le mouvement révolutionnaire a défendu l'héritage du marxisme, du marxisme révolutionnaire face à la social-démocratie, face au stalinisme, alors que la classe ouvrière ne postulait pas à changer la société ou à prendre le pouvoir. Alors aujourd'hui, ces partis sont réellement effondrés après avoir accompagné l'offensive libérale de ces dernières, de toutes ces dernières décennies. Et puis les consciences se transforment et les ruptures justement s'approfondissent contre le système. Et la tâche justement du mouvement révolutionnaire, elle est bien de formuler et de populariser une perspective pour la prise du pouvoir par les travailleurs eux-mêmes, qui ne soit pas pour un jour peut-être, mais qui devienne une politique, une réponse, y compris la plus concrète possible, face à ce pourrissement du capitalisme et à toutes ces conséquences qu'on voit aujourd'hui un peu dans tous les domaines. Alors cela passe, à notre avis, justement par une discussion collective indispensable entre révolutionnaires, à commencer aussi par faire un bilan critique de la séquence électorale que nous venons de connaître. Alors ces élections, elles ont témoigné d'un réel écœurement du jeu des politiciens et du système, en même temps que renaît, en particulier dans les milieux militants, l'espoir de pouvoir changer le monde, même s'il prend la forme d'illusions électoralistes et parlementaires. De fait, Mélenchon a réussi à donner aux illusions réformistes qu'il vend la forme d'un programme anticapitaliste radical, posant la question du pouvoir pour changer la société, mais pour mieux enfermer le tout dans le cadre des institutions, de la République et même des préjugés nationalistes. Cette politique, c'est clair, c'est une impasse, et les travailleurs ont payé cher les illusions dans la gauche au pouvoir qui a participé pleinement à l'offensive de ces dernières années, de Mitterrand à Hollande, en passant par Jospin, sous lequel Mélenchon était ministre. Et une impasse, y compris sur la base de laquelle l'extrême droite a prospéré. Mais ce succès ponctuel de Mélenchon, nous, on pense qu'il nous renvoie surtout à l'échec du mouvement révolutionnaire à populariser son propre programme et ses propres perspectives, car c'est bien là le problème. La fraction majoritaire de la direction du NPA a maintenu durant la campagne une ambiguïté permanente en plaçant justement cette campagne dans la perspective d'une reconstruction d'une gauche de combat, jusqu'au soutien de la NUPES lors des législatives. Quant à lutte ouvrière, de fait, sa campagne reste enfermée au nom du communisme et du parti révolutionnaire dans une logique d'auto-affirmation repliée sur sa propre activité, sans prendre en compte les conditions et les enjeux de la période. Et quelque part, pas plus le NPA que lutte ouvrière n'avons réussi à rendre crédible et populaire une perspective révolutionnaire posant la question du pouvoir, du contrôle des travailleurs et de la population sur la marge des entreprises et de la société et d'un autre mode de production face à la gabegie des capitalistes. Et cela a laissé le terrain à la gauche populiste de Mélenchon qui a su capter un électorat, y compris radical, ouvrier, populaire, même si l'extrême gauche a vu beaucoup de jeunes affluer à ces meetings. Alors, on ne peut se contenter d'expliquer cette situation par les illusions réformistes des masses. Pour revenir quand même sur un passé pas si lointain, en 2002, les trois candidats, Lutte ouvrière, LCR et Parti des travailleurs, totalisaient plus de 10% des voix à la présidentielle. Après qu'Arlette Laguiller ait réalisé plus de 5% des voix en 1995 et que LO et la LCR ensemble aient eu 5 élus au Parlement européen en 1999. Et aujourd'hui, 20 ans après, on est à 1,5%. Alors certes, on n'est pas électoraliste, mais cette question nous pose évidemment un problème politique. Quelque part, on n'a pas été collectivement en mesure de formuler des perspectives, d'appeler à se regrouper autour d'un programme révolutionnaire et de porter cette perspective du socialisme, du communisme, non comme une utopie, mais comme quelque chose qui s'inscrit dans le développement même du capitalisme et de la lutte de classe aujourd'hui. Alors, le NPA et LO, y compris dans la campagne, se sont même ignorés, incapables de se penser comme deux sensibilités d'un même mouvement révolutionnaire, avec en gros une réponse commune qui était de dire plus il y a de voix pour défendre les idées révolutionnaires, mieux c'est. Mais comment justement donner crédibilité aux idées et aux perspectives que l'on porte à une large échelle dans ces conditions ? On défend justement la convergence des colères, on défend la convergence des luttes, et cela, ça suppose de mettre en pratique la convergence des idées, des perspectives entre révolutionnaires, de façon démocratique, sans taire nos désaccords. Alors les divisions entre nos organisations, elles se sont même renforcées après la campagne, hein, chacun se rend responsable de l'autre des échecs, mais voilà, la question, c'est comment chercher les voies et les moyens d'une réponse collective à une situation objective dont aucun courant révolutionnaire n'est en lui-même coupable ni responsable. Car c'est bien l'ensemble du mouvement, quelque part, qui est confronté hein, à ses limites dans le cadre d'une nouvelle période. Et c'est ça qu'il nous faut dépasser, justement, pour engager la bataille pour un parti des travailleurs ouvert, large, démocratique et révolutionnaire. Alors un tel parti, c'est clair, ne naîtra pas de recomposition des débris d'une gauche qui est carrément en ruine et qui ne vise qu'à gouverner dans le cadre institutionnel. Mais il ne naîtra pas non plus de la seule activité d'une fraction révolutionnaire qui prouverait que seule sa ligne est juste. Un tel parti naîtra d'un mouvement démocratique vivant, sélectionnant à travers la lutte des classes, sélectionnant à travers la lutte des classes ses dirigeants comme ses orientations. Un parti qui lie à la fois ses revendications, son programme, à une stratégie révolutionnaire de lutte pour le pouvoir des travailleurs. Et cela signifie, justement aujourd'hui, prendre en compte les militants, les militantes de lutte ouvrière, du NPA, du CCR, de tous ces justement courants aujourd'hui, ces fractions et tendances du mouvement révolutionnaire. Cela signifie aussi prendre en compte tous ces jeunes et moins jeunes qui sont encore plus nombreux, hein, qui militent pour la révolution sans se retrouver dans aucune de ces organisations. Et cela signifie aussi prendre en compte tous ceux qui ont voté Mélenchon et sont aujourd'hui déçus et cherchent justement une politique. Alors construire ce regroupement des anticapitalistes révolutionnaires, ce fut l'ambition du NPA à sa fondation 2009, malgré ses faiblesses politiques. Mais la démarche reste pleinement d'actualité, à condition justement de trancher ce débat stratégique qui restait en chantier, et puis aussi d'en finir avec cette politique d'errement vis-à-vis de la gauche, qui par ailleurs est bien plus gouvernementale que radicale. Alors, pour en finir rapidement sur les perspectives, oui, nous pouvons aujourd'hui mettre en œuvre, discuter une politique d'unité des révolutionnaires qui pourrait commencer par prendre en compte d'abord notre propre réalité, nos forces dans les entreprises, les syndicats, les facultés, les quartiers, et à partir de là, en acceptant et en discutant de nos désaccords, on pourrait développer une politique pour construire des réseaux militants capable d'intervenir en toute indépendance des appareils, dans les journées d'action, les luttes à venir, hein, ou en cours. Des réseaux pour que les travailleurs prennent leur lutte en main, démocratiquement, en défendant une politique de convergence des luttes sur les salaires ou face aux licenciements. Nous pourrions aussi mener une politique commune face aux appareils syndicaux et à leur politique du dialogue social pour la démocratie ouvrière et pour une orientation justement lutte de classe face aux méthodes bureaucratiques comme à la CGT Stellantis. C'est ainsi que nous pourrons au mieux dépasser les divisions pour répondre aux aspirations de la nouvelle génération, l'encourager justement à prendre les choses en main. Une politique qui, quelque part, nous oblige aussi à nous réinventer nous-mêmes hein, pour penser un mouvement démocratique et révolutionnaire enraciné dans la classe ouvrière et la jeunesse, riche de ses débats entre courants et tendances et trouvant son unité et sa cohérence dans sa politique d'indépendance de classe et une stratégie révolutionnaire.
Bravo. Voilà, donc je donne la parole aux camarades de lutte ouvrière pour 2 fois 7 minutes.
Merci. Bon, moi, je ne vais pas m'étendre sur la faillite du capitalisme. Hein. Dans les pays pauvres, c'est la misère et la guerre. Dans les pays riches, il n'a rien d'autre à proposer que le chômage et la précarité. Et j'insisterai pas sur le bilan, il est partagé. Voilà. Notre problème, c'est que la seule classe capable d'infléchir le cours de l'histoire, le prolétariat, a perdu sa conscience de classe et la confiance en la force qu'elle représente quand elle entre en lutte. Ou plutôt, les partis, syndicats ou organisations qui se prétendaient la représenter l'ont désarmée. Les passages au gouvernement du PS, flanqué du PC, ont laissé un goût amer. Des plans d'austérité des années 80 à la politique de Hollande, de nombreux travailleurs et de nombreux militants ont pu se sentir trahis. Mais il n'y avait rien d'autre à attendre des partis réformistes. Et c'est notre rôle de communiste révolutionnaire de le dire. La gauche réformiste est au service du patronat. Sa raison d'être, c'est de représenter une alternative à la droite quand celle-ci est trop discréditée aux yeux des ouvriers, mais en défendant les intérêts de la classe dirigeante, de la bourgeoisie. La politique de la gauche a poussé la majorité des travailleurs vers l'abstention et bien d'autres vers le vote Rassemblement national. Autant dire que le prolétariat est désorienté. Quant aux syndicats, ils n'ont pas changé. Les centrales syndicales sont complètement intégrées au système. Et si Martinez semble durcir son discours dans la période, les rapports de force, les grèves, ne représentent à ses yeux et aux yeux de la bureaucratie syndicale qu'un moyen d'être en meilleure position pour négocier dans le cadre du système, d'être reconnu comme un interlocuteur incontournable. Cette intégration n'est pas nouvelle. Elle date de plus d'un siècle, du vote de crédit de guerre en 14 et de la trahison de 36. Les bureaucraties syndicales sont devenues les agents de la bourgeoisie dans la classe ouvrière. Alors pour affronter la classe capitaliste, ses représentants directs au gouvernement comme les faux amis des travailleurs, les partis réformistes et les bureaucraties syndicales, il faut un parti taillé sur mesure. Nous avons une confiance inébranlable dans la classe ouvrière. On l'a vu en Algérie, au Soudan, on le voit en Iran. Dans une bien moindre mesure, on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas la combativité qui lui manque. Les explosions sociales secouent régulièrement la société capitaliste. Et à chaque fois, ce ne sont pas les révolutionnaires qui ont mis des millions de travailleurs en mouvement. Ils l'ont fait tout seuls. Mais quand le mouvement démarre, là se pose la question de sa direction. Là se pose la question de l'existence d'un courant communiste révolutionnaire qui permette à la classe ouvrière d'aller le plus loin possible. Il faut se battre pour qu'un tel courant, un tel parti se développe. Ce parti communiste révolutionnaire ne peut se construire, comme ses prédécesseurs de la Ligue des communistes de Marx au bolchevique de Lénine, qu'en adoptant une politique indépendante de la bourgeoisie, qu'en affrontant tous ses partis, de droite bien sûr, mais aussi ceux de gauche, et même ceux de la gauche de combat, en leur contestant à eux et aux bureaucraties syndicales l'emprise qu'ils ont sur la classe ouvrière. Cela nécessite de dénoncer aujourd'hui tous les illusionnistes qui prétendent qu'en votant bien pour une gauche de combat, les travailleurs pourront faire l'économie de mener leur propre bataille. Cela implique de présenter Mélenchon pour ce qu'il est, un adversaire politique, un défenseur du capitalisme. Mais le problème, au fond, c'est toujours la propriété privée, le capital. Ce ne sont pas les gouvernements qui décident des fermetures d'entreprises, des embauches ou des salaires, ce sont les patrons. Et quand le prolétariat entre en lutte, les réformistes cherchent à en prendre la tête pour mieux ramener le mouvement dans ses limites, enfin dans des limites en tout cas acceptables par la bourgeoisie. Ce n'est pas un hasard si Mélenchon, à la manifestation du 16 octobre à Paris, s'est réclamé du Front populaire. Le Front populaire, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite, un mouvement de grève et d'occupation d'usines trahi par les partis ouvriers. Blum au gouvernement, Torres dans les usines, faisant arrêter la grève pour quelques droits et congés payés, alors que la société capitaliste était au bord du gouffre de la Seconde Guerre mondiale. Ces courants, il faut les combattre, en considérant cette gauche dite de combat comme des adversaires politiques, et pas en les invitant à la tribune de meeting, comme le NPA l'a fait le 12 octobre, ni dans les élections, comme aux législatives, ni en étant en première ligne à leur côté lors des manifestations. En même temps, il faut se battre pour que les travailleurs dirigent leur mouvement par eux-mêmes. Cela implique de renouer avec la démocratie ouvrière, de se battre pour imposer des comités de grève, de militer pour que ces comités prennent en charge l'organisation des grèves. C'est la seule solution pour que les travailleurs émancipent leur lutte des bureaucraties syndicales. Et c'est la seule solution pour que les travailleurs s'unissent par-delà leurs divergences politiques et décident ensemble de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils veulent faire quand ils se battent. Et pour défendre cette idée-là, il faut des militants communistes révolutionnaires dans les entreprises. Des militants qui s'engagent, y compris à contre-courant dans la période actuelle, et qui réintroduisent les idées du communisme et de la révolution au sein de la classe ouvrière. C'est ce type de militants qu'il faut trouver et former. Nous, nous considérons toujours qu'il est vital de s'adresser non pas aux autres courants politiques, mais directement aux travailleurs. C'est ce que nous faisons dans les élections, en nous présentant de façon systématiquement indépendante, en combattant non seulement les partis qui sont ouvertement nos ennemis, mais aussi les faux amis des travailleurs. Alors nos résultats sont certes modestes, à l'image de la période, comme les vôtres, mais ils permettent de démontrer l'existence, la permanence du courant communiste révolutionnaire. C'est pourquoi nous cherchons aussi à créer des embryons, des noyaux du parti nécessaires dans les usines et dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, en construisant des comités autour de nos participations aux élections locales, sur nos bases politiques et dans les usines, autour de notre presse d'entreprise, nos bulletins, une petite brèche que nous ouvrons dans la dictature patronale, mais surtout une possibilité pour les militants de s'entourer de travailleurs, de les organiser, de constituer un réseau dans l'entreprise autour de la diffusion des idées communistes révolutionnaires à la barbe du patron. Le Parti communiste révolutionnaire, on n'a pas encore réussi à le construire, certes, mais on n'a pas à rougir de notre bilan, de notre politique, bien au contraire. Et on pense que c'est la seule voie qui prépare l'avenir.
Alors, ce qu'on voulait aussi discuter, c'est un autre aspect, c'est la politique des communistes révolutionnaires, ce qu'elle doit être dans une période de montée des tensions internationales, de montée de la course aux armements et du militarisme. Alors, Christine en a un peu, en a parlé, mais moi j'y reviens dessus parce qu'effectivement c'est une nouvelle période. Elle parlait de nouvelle période, d'une certaine façon, oui. Le capitalisme, la propriété privée des moyens de production, la concurrence et la course au profit conduisent le monde au chaos. La guerre en Ukraine, qui vient de nous le rappeler, parce que la guerre est à nos portes. Et on sait comment une guerre commence, mais on ne sait pas comment elle se terminera. Et en réalité, quand même, il faut se rappeler aussi que la guerre, elle a toujours été là sur notre planète. Et des guerres qui ont toujours été alimentées par l'impérialisme. Depuis 1945, il n'y a pas une seule année sans conflit quelque part dans le monde. La guerre en Ukraine, c'est depuis 2014, c'est pas 2020, c'est 2014. Il y a eu la guerre au Yémen, en Syrie, en Israël, avec la Palestine, Mali, Éthiopie et Soudan, et j'en passe. On peut parler aussi des tensions qu'il y a aujourd'hui dans la mer de Chine, où les États-Unis et l'Australie concentrent des forces et préparent les esprits à une possible guerre contre la Chine. Alors oui, l'économie capitaliste, elle est dans une impasse, il faut le mesurer. Cette économie est incapable de surmonter ses contradictions. Elle se heurte une fois de plus aux limites du marché solvable, à la concurrence entre capitalistes, entre impérialistes. Elle est incapable de planifier les ressources rationnellement au service de l'humanité. La seule réponse que trouve la grande bourgeoisie aujourd'hui pour sortir de cette impasse, c'est la course au militarisme. Cela ne dépend absolument pas de la couleur politique de ceux qui dirigent les gouvernements, quel que soit en Europe ou aux États-Unis. Le militarisme est inscrit dans les gènes du capitalisme. La phrase qu'on a pu dire des tas de fois, mais qu'il faut redire, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Oui, c'est ça, le capitalisme. Et aujourd'hui, on a l'illustration concrète. Alors, nous, on a des responsabilités, les révolutionnaires, dans cette situation-là. Parce que la situation, elle s'aggrave effectivement. Et comment en 1914, comment en 1939, il n'est pas question d'accepter de marcher au pas derrière un camp ou un autre, ni Poutine, ni l'OTAN, ni notre impérialisme. Nous raisonnons en termes de classe sociale. C'est notre seule boussole. Comme en 14, comme en 1939, on sait très bien qu'il y a des pressions, une propagande. Zelensky, vous rappelez au début, c'était au tout début de la campagne présidentielle, s'était présenté, s'est toujours présenté comme un héros ukrainien, comme un sauveur suprême. On l'avait rappelé dès le début, Zelensky, c'est un instrument de l'ultranationalisme ukrainien et des oligarques du système. Alors cette guerre, elle est utilisée par tous les gouvernements pour tenter de souder la population derrière eux, au nom de la défense des valeurs démocratiques contre la dictature de Poutine, au nom de la paix ou de la menace d'une guerre nucléaire. Ils se servent de l'émotion légitime devant les morts, devant les destructions, devant les réfugiés, pour tenter de créer l'unité nationale. Ils veulent préparer les esprits à l'idée qu'il serait légitime de défendre sa patrie et qu'il faut être prêt à mourir pour elle. Ce conditionnement nationaliste qui veut nous ranger derrière nos propres gouvernements est favorisé, il faut le dire, par les différents courants politiques qui réclament des armes pour l'Ukraine, qu'ils soient à gauche ou à l'extrême gauche. Biden, Macron et les autres dirigeants occidentaux Ils n'ont pas attendu ces gens-là pour livrer des armes. Ils les fournissent sans limite à l'armée de Zelensky et aux milices territoriales ukrainiennes qui sont largement sous la coupe de l'extrême droite. Réclamer des armes pour l'Ukraine sans distinguer les intérêts sociaux, les intérêts des différentes classes sociales qui s'opposent dans ce vaste pays, c'est considérer que l'invasion russe a supprimé toute lutte de classe en Ukraine. À ce jour, ce qu'on peut dire, c'est que la guerre en Ukraine menace d'être longue et peut même s'étendre. Et il est impossible de prévoir son expansion, voire sa généralisation. Mais c'est une hypothèse que n'exclut personne aujourd'hui, à commencer par les États impérialistes et les États-majors de leurs armées. Alors, dans les guerres entre brigands impérialistes, entre puissances qui sont prêtes à jeter les peuples dans la guerre pour préserver leur accès aux marchés et aux matières premières, aujourd'hui, plus que jamais, les travailleurs et les jeunes doivent garder comme ligne de conduite l'ennemi dans notre propre pays. Oui, il faut que les révolutionnaires y soient clairs, intransigeants, par rapport à la politique que veut nous imposer l'impérialisme, en particulier le nôtre, l'impérialisme français. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'impérialisme n'en a que faire. Les guerres impérialistes se partent toujours de grandes idées abstraites et de hautes valeurs morales pour embrigader les peuples. On a tout eu. La liberté, le droit des nations, la défense de la patrie, la défense de la civilisation contre la barbarie, le droit des femmes au moment d'intervention en Afghanistan. Tout y est. Ces responsables politiques nous expliquent même aujourd'hui que l'envoi d'armes lourdes en Ukraine, c'est pour préserver la paix. Rosa Luxembourg écrivait, je cite, « La légende de la défense de la patrie appartient tout autant à l'art de la guerre que la poudre et le plomb. » Alors, nous qui militons en France, où le gouvernement veut nous embrigader dans cette guerre, dans le camp de l'impérialisme, nous devons être clairs. Nous devons dénoncer cette propagande guerrière, dénoncer les mensonges. Le rôle des révolutionnaires n'est pas de demander des armes pour l'Ukraine ou des sanctions contre la Russie. Le rôle des révolutionnaires n'est pas de se ranger derrière la politique de notre impérialisme. Alors nous, on garde une référence, le parti bolchevique. Parce que le parti bolchevique, il a été capable de mener une politique résolue et intransigeante pour que le prolétariat prenne le pouvoir en octobre 1917. Pourquoi ? Parce qu'il a été capable, il s'est construit, il s'est forgé à travers des périodes de montée révolutionnaire, comme 1905, mais aussi face à des périodes de recul, face à la montée des idées réactionnaires et nationalistes, face au rouleau compresseur de la propagande nationaliste lors de la boucherie de 14-18, ces militants ont inlassablement défendu les perspectives internationalistes, une politique d'indépendance de classe, les perspectives révolutionnaires. Eh bien, c'est ce type de parti que nous voulons construire et que nous devons construire. Il nous faut un parti qui soit préparé moralement, politiquement, un parti implanté dans la classe ouvrière, avec des militants ouvriers capables de proposer des objectifs politiques. Un parti de militants capables de militer ensemble, habitués à travailler ensemble. Un parti soudé avec une bonne boussole politique, les idées du marxisme et du communisme. Dans cette période de recul, parce que c'est une période de recul où c'est la bourgeoisie qui donne le ton, où les idées qui dominent, ce sont celles de la classe dominante, il est nécessaire et vital de l'avoir, cette boussole et ce ciment politique. L'heure, pour nous, n'est pas de courir derrière les réformistes, divers et variés, plus ou moins radicaux, de consacrer les forces des révolutionnaires à redonner un semblant de vie à une nouvelle union de la gauche, rebaptisée pour la circonstance « gauche de combat ». L'heure n'est pas de servir les plats à une Clémentine Autain qui parade au meeting parisien du NPA, en prônant une politique d'union sacrée au nom de la défense de l'Ukraine. Si nous voulons pouvoir peser, agir dans les révoltes sociales à venir pour qu'elles deviennent des révolutions, la tâche actuelle, prioritaire, urgente, est d'implanter les idées communistes dans la classe ouvrière, de se consacrer toutes nos forces, notre énergie, notre révolte à trouver des militants ouvriers communistes.